Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Il est 8h30.
Bretagne 5. L'invité du 7-9.
Et ce matin, notre invité de la matinale est Alexis Laboria. Il est vice-président des jeunes avec Valérie Pécresse. Il est en direct avec nous, exceptionnellement par téléphone ce matin. Bonjour Alexis Laboria.
Bonjour.
Alors Alexis Laboria, vous avez choisi de soutenir Valérie Pécresse, donc candidate à l'investiture de la droite à la présidentielle. Pourquoi ce choix en particulier? Pourquoi vous êtes porté sur la candidature de Valérie Pécresse?
Valérie Pécresse, pour moi, elle a vraiment une vraie expérience politique en tant qu'élu local, en tant que ministre et en tant que président de région. Et pour l'avoir accompagnée maintenant depuis quelques années, c'est vraiment quelqu'un de très pragmatique, de dynamique. Et pour moi, elle a vraiment à la fois l'expérience, la compétence. Et je sens qu'elle est vraiment déterminée aussi pour devenir la prochaine présidente de la République. Et elle a vraiment montré aussi, en tant que présidente de région, qu'elle était capable de réformer sa région. Et je pense qu'elle sera tout à fait capable de réformer le pays aussi.
Alors, elle a en face d'elle, si vous me permettez l'expression, Xavier Bertrand, qui lui aussi est candidat donc à l'investiture de la droite. Qu'est-ce qui a porté finalement pour vous ce choix vers Valérie Pécresse, alors que finalement, quand on regarde, il y a quand même des points de convergence entre les deux programmes?
Bah, c'est celle qui se rapproche le plus aussi de ce que j'envisage aussi en politique, de ce que je trouve le plus juste aussi. Je pense que c'est elle qui a le programme aussi qui se rapproche le plus de l'identité de la droite aujourd'hui, authentique. Et honnêtement, c'est en tant aussi que de son expérience en tant que présidente de région que j'ai vu tout ce qu'elle a fait et de quoi elle est capable de faire aussi. Et c'est pour ça qui m'a porté vers ce choix.
On a l'impression aujourd'hui à droite que l'on se cherche un petit peu, comme c'est le cas à gauche d'ailleurs. Est-ce qu'il manque une figure aujourd'hui, une figure qui incarnerait la droite? C'est la question souvent que les éditorialistes ou les observateurs se posent.
Moi, je pense pas à titre personnel. Je pense que aujourd'hui, on a des figures qui sont importantes, qui ont pu montrer aussi de quoi elles étaient capables en tant que responsables politiques. Après, je pense que là, on est dans un temps où la droite se cherche un chef en quelque sorte, et où on doit désigner un candidat ou une candidate. Et c'est pour ça que je pense que ça va être important aussi d'avoir ce débat dans les prochains mois pour savoir exactement qui peut incarner le mieux aujourd'hui la droite, qui peut le mieux représenter les sympathisants de droite pour la présidentielle. Donc je pense que c'est important d'avoir ce débat entre tous les candidats de la droite, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Parce que là, on était vraiment dans la définition du mode de désignation, mais je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le débat candidat sur les idées, sur le projet. Et je pense que ça va être intéressant. Et là, les Français pourront voir qui se dégage et qui, selon eux, est le plus apte à gouverner demain.
Selon vous, est-ce que c'est une bonne idée finalement de ne pas avoir organisé de primaire à droite?
Alors moi j'étais pour la primaire, j'ai même voté pour la primaire lors du vote qui avait été organisé par les Républicains, parce que je pensais que c'était le choix le plus simple possible, aussi le plus large pour avoir le plus de personnes qui puissent voter, le plus de sympathisants. Ça aurait donné une légitimité encore plus importante pour le vainqueur. On a vu que les écologistes avaient aussi organisé une primaire. Je pense qu'on aurait pu avoir beaucoup de personnes qui se déplacent pour voter. Après, évidemment, je respecte le choix des militants qui a été fait, c'est-à-dire celui d'un congrès qui en soi est une forme de primaire, mais réservé aux adhérents des Républicains. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, Valérie Pécresse s'inscrit pleinement dans cette démarche, en respectant le choix des adhérents et en se pliant aussi à la règle du jeu. Après, évidemment, je pense que le mieux, c'est d'avoir un processus de départage qui nous permette après d'avoir un seul ou une seule candidate, et pas qu'on arrive sur la ligne de départ avec deux candidats.
Voilà, ce qui serait sans doute contre-productif, finalement.
Mmh.
Alors, Alexis Laboria, vous parliez à l'instant de la droite, de ses marqueurs qui sont peut-être un petit peu moins présents aujourd'hui. On a l'impression que la droite, pardonnez-moi le mot, mais c'est un peu gauchisé, c'est un peu assagi. Est-ce qu'il faut retrouver les idées de droite? Est-ce qu'il faut retrouver ce qui a fait, finalement, la droite d'antan?
Moi, je pense pas que la droite se fait assagir. Je pense qu'elle porte un discours qui est sensiblement le même depuis plusieurs années. Après, évidemment, sur certaines questions, aujourd'hui, ils essaient de chercher des idées nouvelles, des idées un peu plus innovantes aussi sur certains sujets. Mais à titre personnel, je trouve pas que la droite, forcément, soit gauchisée. Je pense qu'on a un débat public aujourd'hui qui s'oriente principalement à droite, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les idées de droite sont partagées dans le pays. Et c'est tout l'intérêt aussi pour la droite de rester, disons, très clair sur ses valeurs et de les affirmer plus fort. Visiblement, c'est des idées qui sont partagées par les Français.
Alors, justement, Valérie Pécresse a proposé une révision de la Constitution avec un référendum qui permettrait de stopper l'immigration incontrôlée. Elle considère, elle l'a dit, Valérie Pécresse, que la maîtrise des flux migratoires, eh bien, c'est un défi de société majeur aujourd'hui. Est-ce que, finalement, l'immigration est le principal enjeu de cette élection présidentielle ?
C'est un des enjeux principaux de cette présidentielle, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a la question du pouvoir d'achat aussi. Mais sur la question de l'immigration, on voit bien que c'est une des préoccupations, quand on demande aux Français, c'est l'une des préoccupations qui arrive régulièrement en tête. Et évidemment, je pense que c'était important de répondre à cette préoccupation, mais non pas en faisant des constats ou en faisant de l'incantation en quelque sorte ou en juste en décrivant la situation. Valérie Pécresse, elle fait des vraies propositions qui sont concrètes et qui sont réalisables aussi. Et notamment parce qu'elle est accompagnée de son directeur de campagne, donc Patrick Stefanini. Lui, c'est qui était directeur de campagne de François Fillon, et c'est un vrai spécialiste de ces questions. Il les a étudiées en long, en large et en travers, si je puis dire. Et son vrai projet, donc, de loi constitutionnelle, il est déjà prêt, c'est-à-dire que dès qu'elle sera élue, elle peut le mettre en place avec des vraies propositions qui vont pouvoir se mettre en place dès son élection. Et je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est aussi d'apporter des vraies solutions concrètes. Et pas uniquement de décrire une situation sans forcément y apporter des solutions.
Voilà, j'ai parlé de référendum. En fait, il s'agit bien d'une loi que propose Valérie Pécresse. Alors justement, confusion, parce qu'il y a aussi d'autres candidats qui, eux, proposent un référendum sur ces questions d'immigration. Est-ce que là aussi, il va falloir à droite qu'il y ait un débat autour de l'immigration, qu'il y ait un consensus quelque part ?
Je pense que tous à droite partagent la conviction qu'il faut aujourd'hui reprendre la main sur la politique migratoire. Ensuite, ils apportent tous des solutions un peu différentes, mais pas forcément divergentes. C'est-à-dire qu'on a des positions entre les candidats qui sont un peu différentes. Certains proposent un moratoire, d'autres un référendum. Après, je pense que il y aura aucun souci demain à ce qu'ils s'entendent tous sur un même projet sur l'immigration. Disons, ils sont tous sur la même ligne, c'est-à-dire qu'il faut maintenant reprendre la main sur la politique migratoire, il faut avoir des propositions concrètes, applicables aussi, et il y a plusieurs leviers qui, je pense, sont partagés par tous, c'est-à-dire à la fois la renégociation des visas avec les pays étrangers, revoir la politique d'asile, sur tous ces sujets-là, et réformer la politique de regroupement familial sur tous ces sujets-là. Je pense que la droite... c'est à peu près la même chose, donc il y a pas vraiment, je me fais pas vraiment souci là-dessus. Je pense qu'ils ont un projet qui est clair et qui est à peu près consensuel.
Alors, est-ce que justement c'est aussi une façon de s'approprier ces grands sujets qui sont chers à la droite? D'ailleurs, on pense à l'immigration, mais aussi la sécurité. On va parler aussi du pouvoir d'achat tout à l'heure. Mais est-ce que c'est aussi une forme d'appel? Oh là, nous avons. Alors là, nous... voilà. Alors, nous avons. Nous avons un problème de liaison, vous l'aurez compris. Tout de suite, on va devoir, je pense, rappeler Alexis Laboria, qui est vice-président des Jeunes avec Pécresse, qui est notre invité dans la matinale. Voilà le temps de retrouver une liaison à peu près normale. Voilà, c'est un petit peu les aléas du direct et surtout du téléphone, les réseaux téléphoniques qui ne sont pas toujours très très bons en ce moment, il faut bien le dire. Voilà, alors on est en train d'essayer de joindre à nouveau notre invité de la matinale, Alexis Laboria. Je rappelle qu'il est vice-président des Jeunes avec Valérie Pécresse. Voilà, nous devrions l'avoir dans quelques minutes. Il est 8h39, c'est la matinale de Bretagne 5. Nous sommes en direct et nous sommes victimes des aléas du téléphone. Voilà, on va essayer de poursuivre cet entretien. Voilà, nous fait signe que nous devrions avoir Alexis Laboria en ligne dans quelques secondes. Je crois que c'est le cas. Voilà, Alexis Laboria, vous m'entendez ?
Oui.
Voilà, on a été un petit peu coupé par le téléphone qui nous a fait faux bond. J'étais en train de parler évidemment du précédent sujet. On parlait d'immigration. Je disais qu'on allait parler aussi de la sécurité, qui est un sujet qui tient à cœur, en tout cas aux militants de la droite et à la droite plus généralement. Et je vous demandais, Alexis Laboria, si finalement le fait de s'approprier ces sujets, c'était pas aussi en quelque sorte les retirer à l'hégémonie de l'extrême droite.
Je pense que honnêtement, la droite a toujours porté ce sujet. Et si on écoute Valérie Pécresse des années en arrière, en quelque sorte, elle proposait déjà ce type de sujet. Et d'ailleurs, son programme ressemble aussi un peu à celui de François Fillon en 2017. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de reprise de ces sujets. Après, évidemment, je pense que la droite, elle doit se faire entendre sur ces sujets d'immigration, de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'extrême droite, elle est dans l'incantation, elle fait des constats, mais il n'y a pas vraiment de propositions concrètes, tout du moins réalistes.
On voit Éric Zemmour qui monte dans les sondages, le dernier réalisé par Harris Interactive, sorti ce matin, le crédit de 17% au premier tour, devant LR et devant le RN. Est-ce que cette progression de M. Zemmour est de nature à vous inquiéter?
Non, parce qu'en réalité, les sondages à 6 mois ou 7 mois de la présidentielle ne veulent pas dire grand-chose. Je pense que c'est en fonction, disons qu'il y a des dynamiques, il y a des mouvements en permanence, et notamment quand on est sur une élection aussi médiatique que l'élection présidentielle. Donc je pense qu'honnêtement, non, c'est pas nature à nous inquiéter. Encore une fois, ce que je disais, c'est que il y a ceux qui parlent, ils font un constat, on parle de lui, bon, un peu en permanence, j'ai l'impression. Et je pense que honnêtement, c'est pas vraiment de nature à nous inquiéter, à nous inquiéter, parce que plus on va s'approcher finalement de l'élection, plus les Français vont s'intéresser à ceux qui ont des vraies propositions, ceux qui sont dans le faire, et pas ceux qui sont dans la description d'un problème, mais qui, franchement, n'y apportent pas grand-chose.
Néanmoins, on voit ce polémiste, hein, qui n'est pas encore candidat, j'allais presque dire s'inviter dans la campagne. Est-ce que c'est aussi une autre façon d'aborder la politique, une espèce de politique des quilles où on balance comme ça une boule parmi les quilles et puis ça bouleverse un peu tout le paysage? Est-ce que là aussi ça peut remettre en question une façon de faire de la politique?
En réalité, si le but de la politique, c'est uniquement d'arriver et d'essayer de critiquer l'ensemble de la classe politique. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose qui me fait envie. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est un polémiste et que, disons, il a une manière de faire, c'est-à-dire très franche. Ça, on peut pas lui enlever. Mais si c'est uniquement pour critiquer l'ensemble de ses adversaires, mais sans proposer grand-chose, je trouve pas ça forcément très digne d'un potentiellement candidat à la présidentielle. Donc voilà.
On va quitter Monsieur Zemmour, mais il fallait en parler finalement avec ce sondage qui est là ce matin, c'est l'information. Pour revenir à cette élection présidentielle et aux propositions, et là aujourd'hui on a une société fracturée où les Français ont aussi d'autres préoccupations, celles du quotidien. Je le disais tout à l'heure, le pouvoir d'achat, la hausse des tarifs de l'énergie. Est-ce que là aussi la future présidente, s'il s'agit de Valérie Pécresse, devra reposer des règles?
Sur la question de l'énergie, alors déjà, elle a dit très récemment réinvestir dans le nucléaire notamment, parce que c'est une énergie aussi qui pollue peu, qui est plus économe et qui est aussi moins chère. Donc déjà, il y a tout ce qui est dans le réinvestir dans le nucléaire, mais aussi face à l'augmentation des prix de l'énergie, elle veut faire des vraies réformes structurelles, notamment en simplifiant la taxation de l'électricité, et notamment en supprimant aussi la TVA qui s'applique sur d'autres taxes sur l'électricité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des taxes sur des taxes, et elle veut permettre de supprimer justement la taxe sur la taxe qui permettrait finalement de récupérer une part sur la facture d'énergie. Donc il y a aujourd'hui des propositions qu'elle est en train de faire sur la question de l'énergie, parce qu'on a la hausse des prix de l'électricité aujourd'hui, et voilà.
Et on a demandé aux Français de faire des efforts d'économie et autres, mais les prix continuent à augmenter. Est-ce que là aussi, il faudra agir au niveau européen, par exemple?
Je pense oui. On ne peut pas se passer aujourd'hui de l'Union européenne qui régule sur pas mal de sujets. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'Union européenne. D'ailleurs, on va avoir la présidence de l'Union européenne à partir de janvier 2021. Et le prochain président ou la prochaine présidente de la République aura cette présidence quand elle arrivera au pouvoir en avril. Donc je pense que ce sera une disons, la question de la présence de l'Union européenne sera déterminante. Il va falloir, disons, dès la prochaine arrivée de la présidente ou du président, s'attaquer à ces sujets, à la fois ces sujets de l'énergie, les sujets d'immigration aussi, qui se règlent principalement à l'échelle de l'Union européenne, les sujets de sécurité, sur tous ces sujets, il va falloir aujourd'hui qu'on utilise le levier de l'Union européenne pour régler ces questions.
Il y a aussi la question de l'environnement, c'est quelque chose qui inquiète aujourd'hui. Votre génération, la jeune génération qui s'engage en politique, quel que soit finalement le choix du parti ou de la formation, on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, il y a beaucoup de sonnettes d'alarme qui sont tirées, beaucoup d'urgences. Vous le disiez à l'instant, Alexis Laboria, le choix de Valérie Pécresse se porte sur le nucléaire, à un moment où on ne veut plus de nucléaire. Alors comment arriver à résoudre l'équation finalement?
Mais la réalité, c'est que le nucléaire n'est pas forcément polluant. Enfin, disons que les émissions de gaz à effet de serre du nucléaire sont proches de zéro. La réalité, c'est que au-delà de la question de relancer le nucléaire, il y a la volonté aussi de permettre aux Français d'aller vers la transition écologique. Il y a aussi d'autres énergies renouvelables qu'elles souhaitent promouvoir. Et en réalité, il y a toute une série de leviers sur lesquels on peut agir en matière d'environnement, et notamment en matière d'incitation à changer de comportement. Quand elle était présidente de région, enfin elle est présidente de région, mais quand elle est présidente de région, elle a mis en place des aides pour que les Franciliens puissent aussi changer leurs véhicules, pour que ceux qui travaillent aussi et qui utilisent des véhicules qui peuvent être polluants puissent changer leurs véhicules, qu'ils utilisent des transports plus propres. Donc il y a toute une série de leviers à la fois sur le mode des transports, mais aussi sur la consommation, sur l'alimentation, etc., où on peut vraiment changer les modes de comportement et faire une écologie qui soit positive, non pas qui taxe, mais qui incite les Français finalement à changer leur mode de comportement.
Alors Valérie Pécresse a parlé aussi de politique étrangère, hein. Elle est pour un retour de la fierté française retrouvée. Alors on voit aujourd'hui que c'est pas simple non plus au niveau des affaires étrangères, crise avec le Mali, crise avec l'Algérie, on l'a vu ces derniers jours, et puis il y a eu aussi cette crise, alors pour le coup ça c'était un achat de sous-marins avec l'Australie qui ne s'est pas conclu puisque l'Australie a préféré se tourner vers les États-Unis et la Grande-Bretagne. Est-ce que là aussi la future présidente, s'il s'agit de Valérie Pécresse, devra aller, j'allais presque dire, redorer le blason de la France à l'étranger?
Si, je pense que la France aujourd'hui est une grande nation et qu'on a une voix à faire entendre à l'échelle du monde. Après, évidemment, sur la question de l'Union européenne, je pense qu'on a aussi tout intérêt à, et c'est l'avantage d'avoir la présidence française de l'Union européenne, c'est on doit aujourd'hui faire porter notre voix à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. C'est vrai que cette histoire des sous-marins, elle a un peu montré une quelque sorte une faiblesse de la France à l'échelle du monde, et je pense qu'on devrait aujourd'hui s'imposer à la fois avec l'aide de l'Europe, parce que je pense qu'aujourd'hui seul on peut pas forcément s'imposer seul, mais avec le concours de l'Europe, et on a tout intérêt aujourd'hui à faire entendre notre voix dans le monde.
On parle aussi des territoires, là on revient à la France, on parle aussi des territoires aujourd'hui, il y a les territoires urbains, les territoires ruraux, on a l'impression là aussi d'une France un peu à deux vitesses, il y a des revendications ici en Bretagne par exemple, on parle beaucoup de la réunification de la Bretagne, du retour de Nantes en Bretagne, il y a aussi le travail autour des langues régionales, est-ce que ce sera aussi une préoccupation quelque part de travailler sur cette forme de décentralisation dont on nous parle depuis très longtemps?
Alors comme l'a dit Valérie Pécresse, elle est patriote mais régionaliste, c'est-à-dire qu'elle est très attachée aussi aux identités culturelles des régions, elle a eu l'occasion de le dire en Corse et ça vaut aussi pour la Bretagne, c'est-à-dire qu'on a des régions aujourd'hui qui ont des identités culturelles très fortes qu'il faut pouvoir préserver à la fois dans les langues régionales mais aussi dans leur culture, et évidemment elle est très favorable à tout ce qui est décentralisation, c'est-à-dire pouvoir décentraliser plus de compétences aux régions. Elle avait proposé notamment de décentraliser les agences régionales de santé aux régions. Puisque c'est une présidente de région, évidemment, elle sait que c'est un échelon qui est très important aujourd'hui pour pouvoir agir au quotidien aussi, et pouvoir aussi recentrer l'État sur ses fonctions, disons, un peu essentielles, c'est-à-dire protéger, éduquer et soigner. Mmh. Et par là, pouvoir aussi donner aux régions plus de compétences, mais d'ailleurs aux régions, mais c'est aussi aux départements et aux communes, c'est-à-dire quand on décentralise aussi. Si on veut aussi faire des économies sur le budget de l'État, il faut aussi accepter que l'État lâche un peu prise et qu'il donne un peu plus de pouvoir aux régions. On voit que ça se passe très bien dans d'autres pays, chez nos voisins, et on ne voit pas pourquoi aujourd'hui on n'accepterait pas de donner plus de compétences aux régions, aux départements et aux communes.
Alors se pose la question des compétences effectivement aux régions, mais se pose aussi la question du financement. On a des régions comme la région Bretagne, qui ne sont pas des régions riches finalement. Un milliard d'euros de budget, ce n'est pas beaucoup pour une région telle que la Bretagne par exemple. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément aussi bien lotis. Comment là aussi donner les pouvoirs et à la fois les moyens?
De toute manière, à chaque fois qu'il y a un transfert de compétences de l'État vers les régions, il doit être accompagné, c'est fixé, il doit être accompagné par les moyens qui vont avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déléguer aujourd'hui une compétence à une région, une nouvelle compétence, sans les moyens qui vont avec. Donc après, il y a toute la question aussi de comment récupérer les fonds au niveau de l'Union européenne, ce qui est déjà en train de se faire avec le comité des régions. Et voilà, donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on transfère une nouvelle compétence, et s'il y a un nouveau transfert de compétences, l'État doit s'assurer que les moyens aillent avec pour que les régions puissent exercer ces compétences.
Voilà, comment mettre les deux en adéquation. Il y a aussi des problématiques européennes, mais qui concernent la France. On pense aujourd'hui, par exemple, à Jersey et cet affrontement entre les pêcheurs français et les autorités britanniques, avec ce problème de la pêche, puisque la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, le Brexit est passé par là. Là aussi, est-ce que la France pourra peser, sans doute avec l'Europe, on imagine, mais pourra peser dans des décisions pour harmoniser aussi, par exemple, ce problème de la pêche, et harmoniser en tout cas les zones de pêche?
Ah oui, on a tout intérêt aussi à jouer aussi, un peu au rapport de force. On ne peut pas aujourd'hui laisser nos pêcheurs qui ne peuvent pas aller pêcher dans une zone de pêche qui est juste en face de chez eux, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je pense que l'Europe, elle a tout intérêt à faire porter sa voix face au Royaume-Uni et à ce qu'ils s'entendent sur des zones de pêche partagées communes, du moins où chaque pêcheur aussi puisse. Aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir des pêcheurs français qui sont presque empêchés d'aller pêcher.
Et donc là aussi, la présidente qui sera aussi présidente, si c'est Valérie Pécresse, de l'Union européenne, devra peut-être montrer une poigne de fer. On dit que Valérie Pécresse est une femme de tempérament.
Oui, je vous confirme. Oui.
Voilà. En tout cas, elle va déposer aujourd'hui ses 250 parrainages donc pour cette candidature. Est-ce que vous avez bon espoir qu'elle arrive en tête?
Ah oui, évidemment. Je pense que tout est possible. Elle est aujourd'hui une candidate très sérieuse et je pense que les militants des Républicains le savent. Après, évidemment, là, elle va déposer ses parrainages, donc c'est aussi pour montrer qu'elle est très soutenue par les élus locaux. C'est aussi pour montrer qu'elle se plie à la règle du jeu, qu'aujourd'hui elle joue collectif et qu'elle va participer à cette primaire interne au sein des Républicains, et c'est aussi un appel à ceux qui ne veulent pas forcément y participer.
Voilà, on a sorti l'appel du pied. Un dernier mot, Alexis Laboria. En quoi Valérie Pécresse peut-elle aujourd'hui représenter un renouveau pour la droite, peut-être même un renouveau pour LR qui a beaucoup tangué ces dernières années?
Sur le plan des idées, déjà, elle apporte des idées nouvelles, à la fois sur les questions d'écologie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément entendu la droite sur ces sujets, sur les questions d'égalité homme-femme, sur les questions sociales aussi, et je dirais aussi sur les questions des banlieues, parce qu'en tant que présidente de région Île-de-France, de la région Île-de-France, elle a été confrontée aux questions d'intégration, de république, de laïcité au sein des banlieues. Donc je pense que sur tous ces sujets-là, elle a une expérience à faire valoir, disons, pour la droite. Et ensuite, parce que honnêtement, je sais qu'elle est très efficace, qu'elle est pragmatique, qu'elle sait exactement où elle veut aller et ce qu'elle veut faire. Quand il y a un problème, elle essaye absolument de trouver une solution. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir une présidente de la République qui est dans le faire, qui est dans le concret, qui est pas forcément dans les beaux discours ou dans exactement « demain, je vais faire ça » et après, on se rend compte que non. La réalité, c'est que Valérie Pécresse, elle préfère faire plutôt que dire. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi pour redonner aussi un peu confiance dans la politique.
Redonner confiance dans la politique, il y a, et on va terminer là-dessus, Alexis Laboria, ce problème de l'abstention aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les Français et leur personnel politique. Même les jeunes, même s'ils s'intéressent à la politique, ne vont pas forcément aux urnes. Comment parler aux Français? Comment leur dire c'est important finalement?
Mais très honnêtement, je pense qu'on pourra leur redonner envie de politique si on leur montre qu'on est capable d'agir et que le personnel politique est vraiment, disons, à l'écoute et que quand il promet quelque chose, il le fait. Et je pense que c'est ça aussi sa marque de fabrique. Et dans sa région, les Franciliens en sont reconnaissants. C'est-à-dire qu'elle a dit ce qu'elle allait faire et elle l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment redonner confiance, il faut qu'on puisse être dans le concret, dans le faire, dans montrer exactement ce qui peut être possible. Et aussi, je pense qu'il y a une question de faire des actions fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais pas forcément vous dire ce qui a été fait, quelle action forte a été menée par le président, enfin par le mandat d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir des vrais plans généraux sur tout un tas de sujets, réformer en profondeur l'État. Et là, on pourra montrer aujourd'hui que l'État est capable d'agir et qu'il peut faire. Et je pense que c'est ça aussi. Disons, ce qu'on a souvent comme argument, ce qu'on entend souvent comme argument dans ceux qui s'abstiennent, c'est finalement ils ne font rien ou ils servent pas à grand chose. Alors qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui il y a des vrais leviers d'action, mais que certains ne sont pas utilisés. Et c'est là où je me dis que Valérie Pécresse elle saura utiliser ces leviers d'action.
Et on parle aussi de la Ve République, de réformer les institutions. Certains ne veulent plus d'ailleurs de la Ve République. Oui. Est-ce qu'il va falloir la dépoussiérer? Est-ce qu'il va falloir aussi peut-être réinstituer le référendum cher au général de Gaulle en son temps? Est-ce qu'il va falloir finalement faire le peuple se rapprocher des institutions de la République?
Ça, évidemment, je pense qu'il y a des questions de plus de participation aussi. Après, honnêtement, je pense qu'il y a une autre question qui est celle de réformer l'État. Pas forcément, enfin, disons que la République, la Ve République fonctionne. Mmh. La réalité, c'est que l'État, aujourd'hui, fonctionne pas forcément aussi bien qu'il devrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dépenses publiques très importantes et on a des services publics qui fonctionnent pas forcément bien. Et c'est pour ça, je pense que si on arrive à réformer l'État, là, on pourra montrer aussi qu'il fonctionne.
Alexis Laboria, je rappelle que vous êtes vice-président des jeunes avec Valérie Pécresse. Vous étiez notre invité de la matinale par téléphone. Alors, c'est pas toujours simple le téléphone hein, qui nous a joué quelques tours ce matin, mais vous avez pu vous exprimer. C'était ça l'essentiel. Vous étiez avec nous en direct sur l'antenne de Bretagne 5 dans la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée.
À vous aussi.
Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.